français.
Bonjour et bienvenue à l'écoute du programme en français de Radio Prague. La rédaction française de Radio Prague est en deuil en cette fin de semaine. Jiří Slavíček, vous le savez si vous avez écouté nos informations, Jiří Slavíček, notre correspondant parisien pendant de longues années, n'est plus. Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile, il va beaucoup, beaucoup nous manquer. Et pour lui faire nos adieux radiophoniques, nous avons choisi de rediffuser un extrait de l'entretien que Jiří Slavíček avait accordé à Anna Kubišta, un entretien dans lequel il évoquait ses souvenirs de la révolution de velours de 1989.
Vous savez, il faut regarder cet événement à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un immense bonheur puisque on commençait à compter les heures qu'on pourrait revenir, qu'on pourrait revoir Prague, ce qui paraissait d'incompliqué. Et d'un seul coup, il y avait des choses qui tombaient. De notre côté, il y avait une tristesse tout aussi immense, puisque quand on regarde ça, même avec des années plus tard et tout, on était quasiment pétrifiés, puisque comment se fait-il que le pays de Havel pourrait être aussi attardé, aussi retardé, aussi en retard, puisque on n'était pas les premiers. Déjà, je garde précieusement à la maison, à côté de mon lit, un cadeau des reporters de Radio France, de Service Public, de France Inter et de France Info, puisque j'étais au secrétariat des infos et ils m'ont apporté le morceau, et chacun le morceau de mur.
Le morceau du mur de Berlin qui était tombé plus tôt.
Plus tôt, et pas seulement ça. Moi, j'avais l'impression, et ça ne me quitte pas encore maintenant, que la vieille garde communiste de Bohème s'est vraiment abritée par le mur, et c'est pas la révolution de velours, velours ou pas velours, qui a gagné, mais c'était puisque ils étaient tellement appuyés sur le mur qu'ils tombaient, puisqu'ils tombaient avec. Mais c'est pas eux qui ont fait ça. Les Polonais, les compagnons d'infortune, les Polonais, les Hongrois, les citoyens de l'Allemagne de l'Est, tout le monde était à 3-4 longueurs d'avance. Et ici, c'était quelque chose de difficile.
Alors concrètement, quand ici ça a commencé à bouger en Tchécoslovaquie, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à Paris ?
Radio Publique Française a réagi, j'y étais quand même un tout petit peu pour quelque chose, a réagi très bien en transmettant la messe de minuit en direct d'une petite église à côté de Pontcharles. Tout le monde était heureux, ravi. C'était la première messe des minuit de fin d'année de 89. Et c'était très bien.
Donc à Noël.
Ah oui. Les gens, les auditeurs français qui n'avaient, réagissaient extrêmement bien. Le prêtre servait la messe aussi bien en tchèque qu'en français. Le français était le français du lycée, oublié depuis longtemps. Mais l'émotion était extrêmement forte.
Pour faire court, voilà, vous avez quand même passé, disons, une vingtaine d'années en France, hein, sans voir votre pays. La première fois que vous êtes revenu en Tchécoslovaquie, justement, dans cette atmosphère post-révolution de velours, comment est-ce que vous avez ressenti les choses en arrivant ?
Moi, je suis toujours, et jusqu'à maintenant, intimement persuadé que le plus grand révolutionnaire de toutes les époques en Tchécoslovaquie ou en Bohême-Moravie, c'était le livre de cuisine de Dobromila Retigova, puisque quand on lisait ça et on voyait ce qui était dans les magasins, c'était un livre de science-fiction ou de rêve. La Radio France nous a prêté un technicien hors pair. Il était maître en ouverture des huîtres. Il, par téléphone, on a réservé du vin blanc de Moravie, de le plus sec qu'ils avaient. On a mis à côté des trois tables les trois seaux pour les trois seaux pour les coquilles et on a ouvert deux bourriches d'huîtres et on a bu au retour et toute ma génération a pu quand même goûter. Mais c'est vrai que le communisme a fait ravage jusqu'au l'estomac des braves gens. Parce qu'ils avaient peur.
Personne n'a supporté.
Non, tout le monde l'a supporté, tout le monde était. Mais ils avaient peur, puisque comment on mange ça vivant? Jusqu'à maintenant, pour beaucoup de gens, il y a une confusion entre moules et huîtres.
Une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on se quitte.
Le temps passe.
Le temps passe, malheureusement, trop vite. Quel est votre regard sur la situation politique, sociale, sur le moral, j'allais dire, de la République tchèque à l'heure actuelle?
Comme on dit en France, c'est une bonne question. Je trouve ça assez terrifiant, puisque comme je suis d'une époque révolue, j'essaye de regarder ça de loin, d'en parler le moins possible, mais disons qu'on peut être fier de quelques journalistes. Avant qu'on arrive au studio, j'ai passé en revue qu'en partant par le tram, il y avait un bouchon, donc on passait tout doucement, quelques hommes politiques, mais l'ensemble, c'est terrifiant. On était chef de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a saboté la présidence de l'Europe. Et moi, je trouve qu'on est, depuis l'Autriche-Hongrie, des champions du ridicule et de braves soldats chevaux.
Alors, vous faites remonter ça à l'Autriche-Hongrie, vous?
Bah, même avant. Mais à l'Autriche-Hongrie, sûrement, puisque on était là. Écoutez, vous avez gagné des élections. On est très contents. Vous voulez gouverner? Mais non! Non, mais où sommes-nous? C'est Schweig en Première Guerre mondiale. Et là, maintenant, on a un gouvernement soi-disant des techniciens. Et donc, les hommes politiques, si on stricto sensu, ils sont en vacances, bien payés. Bon, écoutez, il y a une crise, paraît-il, quelque part. Donc, vous nous sortez de la crise et après, on va expliquer au peuple que maintenant, les jours meilleurs vont arriver grâce à nous. C'est innommable.
Est-ce que vous pensez que la République tchèque a manqué finalement son entrée en démocratie?
J'aurais préféré louper, puisque, comme le dit un journaliste, heureusement pour nous, francophone, pas francophile, Adam Černý, maintenant de Hospodářské noviny, qui a utilisé les deux mots, on a loupé la présidence et on a gâché, on a spatzkal, on a gâché l'époque de post-présidence à la préparation des élections. Mais c'est vrai que depuis le début, je peux dire depuis Havlíček, depuis la révolte contre le palais impérial, on est champion de gâchis. Et on s'y applique et on y arrive.
C'était le déjà très regretté Jiří Slavíček, décédé, je vous le rappelle, en fin de semaine, et l'ensemble de la rédaction française de Radio Prague a une pensée pour toute sa famille et surtout pour ses deux filles. On passe maintenant difficilement, mais on passe quand même à la suite de notre programme avec de la culture. Et depuis la mi-février jusqu'au 11 mars, la petite galerie etc., en collaboration avec la galerie Transit Display, propose le travail de deux artistes français, Étienne Chambaud et Claire Fontaine, autour de l'œuvre parfois trop méconnue d'Herman Melville, Bartleby le Scribe. Herman Melville, dont on connaît en général Moby Dick et rien d'autre. Claire Fontaine était à Prague pour une conférence et pour le vernissage de son travail. Enfin, Claire Fontaine, quand on dit Claire Fontaine, il faudrait toutefois un peu préciser, car Claire Fontaine n'est pas une personne physique à proprement parler, mais un collectif formé par deux artistes parisiens, James Thornhill et Fulvia Carnevale. C'est elle qui a précisé à Anna Kubista ce qu'est exactement que Claire Fontaine.
Culture sans frontières. Anna Kubista.
Ce n'est pas une personne, c'est un nom fictif. Qu'on a donné un espace collectif partagé par plusieurs personnes, et c'est un nom qui vient bien entendu des cahiers qui ont ce nom-là, donc c'est le nom de la page blanche, et c'est aussi un nom qui vient de l'urinoir des Duchamp, dont le titre était Fontaine, donc c'est un des premiers ready-made de l'histoire de l'art moderne, et voilà, c'est un nom qu'on voulait, qui signifie quelque chose, on voulait aussi qu'il soit un nom de femme, qui puisse être compris comme le nom, étant le nom d'une artiste femme.
Depuis quand existe Claire Fontaine et quels sont ses outils de création ?
Claire Fontaine existe depuis 2004. Sa première exposition date de janvier 2005 à Berlin. Ses outils de création sont plusieurs. On travaille avec plusieurs médias. On fait des sculptures, on fait des néons, on fait aussi de la peinture et on emploie les textes aussi dans cette exposition. Notamment, on a une sculpture et un texte.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Duchamp et du premier ready-made. Justement, est-ce que vous pourriez un petit peu redéfinir ce que c'est que le ready-made pour les personnes qui auraient éventuellement oublié et en quoi justement c'est important pour Claire Fontaine?
Alors, les ready-made essentiellement c'est les noms, enfin c'est un nom qui vient de prêt-à-porter en fait en français et qui a été traduit par Duchamp en anglais pendant ses années d'exil en Amérique et c'est un terme que Duchamp a utilisé pour définir une opération qu'il a commencé à faire. Je pense que le premier ready-made était la roue de bicyclette que tout le monde doit avoir vu, qu'il avait installée dans son atelier. C'est une roue de bicyclette qui est installée sur un escabeau et qui tourne comme ça dans l'espace, qu'on peut faire tourner dans l'espace, et qui lui donnait de la joie comme ça de voir ces trucs tourner. Donc il expliquait aux gens que voilà, c'était pour ça qu'il avait fabriqué cet objet. Et l'idée en fait, essentiellement l'opération dont je parlais, c'est de prendre un objet vulgaire qui existe dans les commerces, un objet banal qui a normalement un usage et le transformer en œuvre d'art en le transportant dans les champs de l'art. Donc cette opération qui a l'air comme ça arbitraire en fait et répond à un certain nombre de critères. Duchamp a insisté sur le fait qu'il faut limiter le nombre des ready-made parce que sinon ça n'a plus de sens. Et en fait c'est une opération politique parce que cet objet qui était vulgaire et qui était complètement comme ça un objet parmi d'autres devient tout à coup un objet exceptionnel. Donc pour nous, cette opération est très importante pour les implications politiques qu'elle a, de transformer un objet quelconque en œuvre d'art. Mais aussi, c'est intéressant pour ce qu'elle fait à l'artiste, parce qu'elle transforme les rôles de l'artiste dans tout ça. L'artiste n'est plus celui qui crée, qui produit, qui fabrique l'œuvre d'art, mais
c'est plus un démiurge, en fait.
Non, c'est celui qui doit l'élire parmi la multitude des objets vulgaires et communs. C'est celui qui ne rajoute plus un objet au monde déjà surpeuplé des objets de notre temps, mais qui transforme l'objet par un choix, par un geste, tout ça. Et Duchamp explique lui-même que ça, c'est quelque chose qui a des conséquences très directes sur les rôles de l'artiste. C'est ça qui nous intéresse, notamment dans les concepts d'artiste ready-made, qui est un concept qui est développé dans les textes qui est exposé dans cette exposition.
Alors justement, on va y venir à cette exposition. Vous êtes ici, donc, Claire Fontaine, à Prague. Vous avez donné une conférence à la galerie Transit Display et vous exposez ici à la galerie etc. dans la rue Katerzynska à Prague. Donc c'est dans le cadre d'une exposition, alors à deux, hein, puisqu'il y a aussi un autre artiste qui est exposé qui s'appelle Étienne Chambaud. Cette exposition s'appelle Bartleby le Scribe, en anglais Bartleby the Scrivener, qui est en fait le titre d'une nouvelle ou d'un court roman de Herman Melville. Alors Bartleby, c'est quelqu'un de très particulier, puisque Bartleby, c'est celui qui dit toujours « I would prefer not to ». Je préférerais ne pas. Comment est-ce que vous avez travaillé ce thème et pourquoi ?
Bartleby pour nous a été une référence depuis le début parce que c'est un être absolument émouvant et c'est quelqu'un qui change les choses en faisant moins et pas en faisant plus. Donc c'est très intéressant, c'est que sa préférence négative entraîne en termes de dynamique. Il y a une très belle interprétation de Deleuze et d'Agamben sur ça. Essentiellement, Bartleby ressuscite suite la puissance, la possibilité dans l'espace très triste de l'avocat de Wall Street dans lequel il fait les travaux les moins inspirants et les plus loin du travail d'artiste possible, le travail des copistes, un travail qui maintenant a disparu et qui à un moment donné décide de s'interrompre sans raison apparente. Donc pour nous c'est une figure qui est en rapport avec les mouvements féministes aussi, parce que c'est quelqu'un qui décide d'interrompre sa tâche et pour changer sa position sociale et professionnelle dans les bureaux, mais essentiellement sa position sociale, et il les paye très cher hein, parce qu'après il meurt en prison. Mais tout de même, il mine la virilité de l'avocat, en fait, qui l'embauche, qui est son chef, et il transforme quelque chose pour toujours, et certainement dans les esprits des lecteurs. C'est une référence qui est très importante pour nous, parce que Bartleby est le nom de l'espoir, en fait, hein, aussi. Et c'est aussi le nom d'un gréviste très particulier, parce que nous l'associons à ces concepts qu'on a créés il y a quelques années, et qui est d'ailleurs expliqué dans les textes que nous exposons dans cette exposition sur Bartleby. Alors, qui est le concept de grève humaine.
Ce concept, oui, c'est le concept de grève humaine. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser de quoi il s'agit?
Oui, c'est cette idée que aujourd'hui la sphère professionnelle a avalé énormément d'autres sphères de la vie, donc c'est très difficile de la séparer des autres zones de l'existence humaine, et que donc aujourd'hui pour se rebeller, pour transformer quelque chose dans sa vie et dans sa propre condition sociale et humaine, il faut imaginer une grève qui soit plus vaste qu'une grève générale et qui soit une grève qui peut être pratiquée par n'importe qui. Donc c'est une grève dont les terrains d'action se situent dans les relations humaines où se trouve la racine des relations professionnelles qui produisent l'exploitation. Donc c'est une grève qui a été pratiquée, comme je disais auparavant, par les féministes en refusant de se coller au rôle qui leur a été attribué, en donnant essentiellement une autre image de ce qu'elles étaient et en demandant une vie différente, tout simplement. Et donc c'est aussi cette grève qui colle à la définition que Foucault donner de toute insurrection, qui est « il nous faut changer nous-mêmes ». Donc c'est pas seulement une revendication ponctuelle, c'est une revendication de changement radical et vaste de l'existence.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut relire, Bartleby, ou lire tout court pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut lire Herman Melville et Bartleby en particulier. Alors là, votre collègue en train de, on entendait tout à l'heure un peu les bruits de scotch, est en train de préparer les œuvres que vous exposez. Alors, soit vous, soit lui, vous pourriez peut-être me dire un petit peu de quoi il s'agit, puisqu'évidemment, la radio, il n'y a pas d'image. Alors, il faudrait un petit peu décrire de quoi il s'agit.
Il s'agit d'une sculpture composée par deux briques qui ont une couverture sur elles, une couverture qui a été modifiée pour faire exactement la taille de la brique. Et les deux couvertures en question sont une de l'édition bilingue de Melville et de Bartleby, les scribes, et l'autre d'un texte d'Agamben, d'un livre publié par Quodlibet il y a quelques années, hein, il est sorti en 93, qui rassemble un écrit de Deleuze sur Bartleby, qui était au début d'un critique clinique, et un écrit d'Agamben qui s'intitule Bartleby ou la formule de la création. Donc ces deux sculptures qui en composent une ici sont s'appellent Brick Bats. Elles citent cette pratique en fait qui est celle de lancer un morceau de brique entouré d'un bout de papier qui contient un message à travers la fenêtre de quelqu'un pour donner un dernier avertissement avant quelque chose de pas très amical. Donc c'est des sculptures qui transforment les livres en briques, mais aussi qui ont une valeur d'usage qui serait celle de les transformer, ouais, un peu, enfin si vous voulez, de transformer les livres en armes en un sens très, très littéral.
Alors est-ce qu'on peut juste rappeler à la galerie ici jusqu'à quand se déroule cette exposition?
L'exposition dure jusqu'au 11 mars.
C'était Fulvia Carnevale au micro d'Anna Kubishta. On passe maintenant dans notre programme du week-end à la littérature. Et effectivement, la semaine n'a pas été joyeuse en République tchèque, puisque le pays a également perdu un de ses plus célèbres écrivains, Arnoš Lustig. 84 ans de vie ont été donnés à l'écrivain Arnoš Lustig. Cette longue existence, qui s'est achevée le 11 mars dernier, ressemble elle-même à un roman. Elle était pour lui une source intarissable d'inspiration pour son œuvre littéraire et une formation qui lui a appris la sagesse. Václav Richter, dans la rubrique littéraire, revient sur la vie de cet homme éprouvé par le sort et sur quelques idées que ce travailleur de la littérature nous a léguées et qui ne devraient pas être oubliées.
Rencontre littéraire.
La vie n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons, dit Dita Saxova, héroïne d'un des plus célèbres romans d'Arnold Lustig, jeune femme qui a survécu à l'internement dans un camp de concentration. Et cette phrase résume probablement aussi l'expérience de l'écrivain qui a créé ce personnage. Née à Prague en 1927 dans la famille d'un petit commerçant juif, le petit Arnošt se rendra bientôt compte qu'il est né dans un monde injuste. Exclu de l'école pour des raisons de race, il devient apprenti tailleur. En 1942, il est déporté d'abord dans le ghetto du camp de concentration de Térésine, puis dans les camps d'Auschwitz et de Buchenwald. Il échappe par miracle à cette machinerie de la mort. Vers la fin de la guerre, il se trouve dans le camp de Meuslowitz, près de Buchenwald.
Nous y fabriquions des roquettes anti-chars et des obus à mitraille. Et quand l'armée américaine s'est approchée, on nous a mis dans un train pour nous transporter soit à Dachau, soit à Térésine et pour nous liquider. Nous n'avons pas mangé pendant 6 jours. Notre seul espoir était de fuir. Alors nous nous sommes évadés et nous sommes arrivés à Prague.
Cette évasion est cependant bien dramatique. 3 fois les fugitifs sont repris, 3 fois ils sont condamnés à mort, mais ils réussissent toujours à échapper à leur bourreau jusqu'à s'évader pour de bon. Sauvé miraculeusement et arrivé à Prague, après tous ces horribles avatars, Arnošt, jeune rescapé des camps de la mort, se sent presque invincible. Il assiste allègrement au combat de libération de la capitale tchèque en mai 1945. Après la guerre, Arnošt étudie le journalisme, travaille dans la presse et à la radio. Entre 1948 et 1949, il participe en tant que correspondant à la première guerre israélo-arabe. C'est en Israël qu'il se marie avec Viera Vaislitsova, qui sera la compagne de toute sa vie. Elle lui donnera 2 enfants. Les expériences de la guerre ne protègent pas cependant Arnošt Lustig contre une erreur capitale. Aveuglé par l'espoir de l'égalité raciale et sociale, il adhère au parti communiste et lors d'une réunion publique, il lève la main pour la mort de Milada Horáková, femme qui s'est opposée à l'arbitraire et a été condamnée dans un procès monté de toutes pièces par la justice communiste et ses conseillers soviétiques. Ce n'est que plus tard que l'écrivain se rendra compte des similitudes entre le nazisme et le communisme, système ayant commencé par des idéaux pour aboutir à des assassinats massifs.
Premiers nazistes věřili, že spasí Německo.
Les premiers nazis croyaient sauver l'Allemagne. Les premiers communistes croyaient créer une société juste dans un monde injuste. Leur motif n'était donc pas mauvais, mais au bout, il y avait des camps d'extermination, des régimes totalitaires. En cela, les deux systèmes se ressemblent. Ils diffèrent dans ce qui s'est passé entre le début et la fin. Si j'avais voulu, en tant que garçon juif, adhérer aux jeunesses hitlériennes, ça aurait été impossible. Quand je voulais convaincre les membres de l'organisation communiste que j'étais sincère et que je croyais à leur idéal qui allait dégénérer plus tard, je les ai convaincus.
Déjà dans les années 1950, Arnošt Lustig publie ses premiers recueils de contes, La nuit et l'espoir, et Diamant de la nuit, et il est évident qu'un auteur original est né. Tout ce que j'ai appris d'important sur l'homme, je l'ai appris pendant la guerre, dira-t-il, et il cherchera à partager cette expérience avec ses lecteurs. Les héros de ces livres sont des êtres fragiles et vulnérables, exposés sans défense à l'engrenage de la guerre. Dans ses romans, l'écrivain crée toute une galerie de personnages féminins marqués à jamais par le passé douloureux et qui n'arrivent pas à trouver la force pour vivre. Tel est le cas de Dita Saxova. En revanche, l'héroïne du roman « Prière pour Katerina Horowitzova », jeune femme qui perd toute sa famille dans les chambres à gaz, finit par trouver la force de se venger contre ses bourreaux. Les vies tragiques de ces femmes sont un miroir qui a permis à l'écrivain de refléter et d'exprimer par des moyens sobres l'horreur inhumaine de la guerre et de la haine raciale. Après l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1968, Arnoš Lustig s'exile avec toute sa famille et après avoir vécu quelque temps en Israël et en Yougoslavie, il s'installe finalement aux États-Unis où il enseigne à l'Université américaine de Washington et poursuit son œuvre littéraire. Ce n'est qu'après la chute du communisme qu'il revient dans son pays pour y passer les dernières années de sa vie. Artiste comblé, lauréat de plusieurs prix, Arnoš Lustig ne se laisse pas leurrer par la gloire littéraire.
Povaha té práce vás vede k pokoře.
La nature de ce travail vous mène à l'humilité. Vous ne pouvez pas atteindre la perfection que vous souhaitez. Chaque artiste, écrivain, peintre, musicien tend à la perfection, mais il ne peut l'atteindre que dans l'imagination, dans le rêve, mais non pas dans la réalité. Dans l'art, la perfection n'est pas possible. On peut être bon, très bon, même excellent, mais vous ne parviendrez pas à la perfection, et vous le savez.
L'écrivain ne se fait pas d'illusions non plus sur la pérennité de la littérature. À son avis, tous les artistes servent leur génération et puis s'en vont lentement dans l'oubli, comme les célèbres romanciers du passé, dont Alois Jirásek.
Il a été tellement apprécié par sa génération, mais de nos jours, quand les enfants sont obligés de le lire à l'école, ils protestent. Et cela nous arrivera aussi, à nous tous. Nous allons servir notre génération, et puis, si nous réussissons vraiment, il en restera peut-être quelque chose dans l'histoire de la littérature. Chaque génération a ses écrivains.
Každý pokolení má svý spisovatele.
Vers la fin de sa vie, Arnoš Lustig, riche de ses expériences, suit d'un œil inquiet la recrudescence de l'extrémisme des mouvements nationalistes et néo-nazis. Il profite de toutes les possibilités pour appeler à la vigilance et mettre en garde contre les extrémismes naissants. Il ne cache pas son mécontentement des réactions des milliers officiels à ces dangers latents.
Česká republika je nádherná republika.
La République tchèque est une très belle république, mais elle a une tare. Ses lois sont inefficaces. Nos législateurs ne réalisent pas que chaque fascisme commence par la parole et se termine par le massacre. Cela se terminera de cette façon. Je suis très pessimiste. Si je pouvais, je dirais à la Chambre des députés, rendez les lois plus sévères et prenez en considération que le fascisme commence par la parole et se termine par l'assassinat de masse.
Malgré ce pessimisme et ses appréhensions, Arnoš Lustig restera jusqu'à la fin de ses jours homme plein d'humour et d'énergie vitale que beaucoup de jeunes pourraient lui envier. L'homme qui a tant de fois échappé à la mort sait apprécier la vie. Il ne se laisse pas dompter même par la maladie qui l'emportera finalement, mais ne lui ôtera pas son humour, son appétit de vivre et son désir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons.
Smysl života je žít, a to pokud možno správně.
Le sens de la vie est de vivre, vivre si possible de façon juste. Je ne suis pas celui qui devrait se référer à la Bible, mais il y a 5 livres de Moïse qui peuvent être résumés par une seule phrase. Le devoir de l'homme est de distinguer le bien et le mal, le juste et l'injuste. Vivre avec cette boussole, c'est déjà le sens de la vie.
« Et c'est avec cette nouvelle rubrique littéraire que se termine le programme en français de Radio Prague, en espérant que la semaine prochaine soit un peu plus joyeuse. Je vous souhaite une excellente fin de week-end.
Radio Praga continúa ahora sus emisiones en...